88-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, s'il se passe quelque chose sur la route. Breaking news! Facebook est revenu pour certains d'entre nous. Il y en a qui n'ont pas encore réussi à se connecter, mais moi, de mon côté, ça va très bien. Messenger, j'ai pas essayé, mais ça devrait suivre,
moi, j'imagine. C'est Messenger qui fonctionne.
Facebook, toi, c'est non. Messenger qui fonctionne. Fait que ça va revenir dans les prochaines minutes. Le monde est paralysé, pain chaud.
Ben
Facebook,
oui, j'ai
Instagram est down. Il y a d'autres entreprises qui semblent être down aussi. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Même eu des TikTok là, qui est sorti tantôt. Il y a des gens qui disaient « Non, TikTok fonctionne pas. » D'autres qui disaient « Ah, TikTok fonctionne. » Fait que c'est pas la même entreprise, là, t'sais,
non
Facebook
plus, ça,
pis TikTok.
Métal,
donc, comment ça pourrait être relié, je me pose la question. Donc, on va faire des petites vérifications, puis on en saura plus pour vous autres dans les prochaines minutes. Madame Pinchot, comment allez-vous?
Ça va bien.
Oui, ça va bien, t'es sûr?
Hey, mon Dieu, grosse question. Ça, c'est comme la
on
question.
Se dit, salut,
dit...
ça va? Oui, ça va, toi?
Oui, t'as raison. Ouais. C'est un réflexe, on dirait.
Tout le monde
dire,
fait
oui.
ça.
Puis là, tu fourres le monde quand tu leur dis, t'es sûr?
Ben, c'est parce que tu te remets en question. Là. Je, vais prendre un... je te réponds après le show. Je
comme quand quelqu'un
minutes.
Dit hey, il me semble que tu as de l'air fatigué alors que tu es top shape.
T'sais. Ou que tu n'es pas maquillé pour,
ouais, pour une fille.
Tu t'en vas te voir la face dans le miroir. Hein, c'est... Pourquoi il dit j'ai de l'air fatigué?
Ouais, ma je
face,
fais dur c'est... aujourd'hui.
Ma face, hein? C'est normal.
Hey, je viens vous jaser d'un reportage qui a été diffusé la semaine passée d'Enquête Radio-Canada.
Ben oui, ben oui, ben oui. On en a parlé un petit peu hier, puis je trouvais ça intéressant que tu nous reviennes avec ça, mais avec plus de détails.
Oui, mais c'est parce que ça fait jaser. Le reportage s'appelle Transexpress. On parle en gros... En fait, moi, c'est ce que j'ai retenu là, de ce reportage-là, de la facilité à trouver les outils pour faire une transition de genre à l'adolescence. Donc, simple lettre de recommandation, lettre d'appui, puis tu peux commencer les premières étapes, finalement, de cette transition-là. Transition, en passant, qu'il y a comme trois étapes. Là. Il y a la transition sociale, fait que souvent, on va commencer par vouloir changer le nom aux autour de nous, se laisser pousser les cheveux, par exemple. T'sais. On y va doucement. Il y a la transition légale après, donc les papiers et physique, l'hormonothérapie, les chirurgies, etc., etc. On parle dans ce reportage-là de maladies mentales aussi. On a tendance à, je dis « on », je veux vraiment pas généraliser. Il y a des gens qui ont tendance à mettre ça dans le même panier que si tu veux faire une transition de genre, c'est parce que tu as une maladie mentale. C'est une condition en passant, là. Comme être enceinte, là, dans le sens que c'est pas une maladie mentale, c'est vraiment tu te sens pas bien dans ton corps.
Mais la dysphorie de genre, c'en est une.
C'est pas une maladie mentale.
C'est pas une maladie mentale.
Tu te sens pas bien dans le corps dans lequel tu es.
Je vais te poser une question. Alors pourquoi, si c'est pas une maladie mentale, pourquoi c'est les psychiatres qui s'en occupent?
Ben écoute, c'est une bonne question.
Parce que c'est vrai que c'est une détresse mentale importante.
Absolument. Ben oui, puis j'ai des réponses parce que moi, l'angle qui intéressait beaucoup, c'était de parler avec un psychologue, sexologue qui travaille avec la dysphorie de genre. On en parle beaucoup dans ce reportage-là. Ouais. Puis une des choses qu'on va mettre énormément de l'avant, c'est à quel point c'est plus facile de transitionner que de détransitionner, à quel point c'est facile comme processus pour un jeune de 14 ans de juste aller au privé, payer 115$, puis pouvoir commencer à prendre des hormones ou des bloqueurs d'hormones. Fait qu'il y a une facilité à ça, puis je voulais le côté psychologique. Donc, comme professionnel, comment tu gères ça, finalement? J'ai parlé avec Michel Campbell, lui, psychologue, sexologue, travaille avec la dysphorie de genre depuis plus de 40 ans, fait qu'il y en a de l'expérience, le gars. La première question que je lui ai posée, c'est quoi la difficulté d'un psychologue qui travaille avec la dysphorie de genre? Parce que c'est une décision pesante pour l'avenir de quelqu'un que tu as entre les mains, là.
Bien, je pense que la difficulté du psychologue, en fait, c'est son travail, c'est peut-être pas si difficile que ça après tout, mais c'est accueillir la souffrance de la personne. Parce que les personnes qui consultent pour une dysphorie de genre, c'est des personnes qui sont en souffrance. Alors, donc, il faut connaître cette réalité-là et il faut être capable de les accueillir puis de les faire sentir confortables lors de la consultation parce que souvent, ils arrivent un peu anxieux à la rencontre.
Donc, vous l'avez entendu, c'est des jeunes souvent qui vont arriver, qui vont être anxieux, qui se posent beaucoup de questions par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Dans le reportage, on parle beaucoup aussi de l'effet d'entraînement, tu sais, les réseaux sociaux.
Il y a ça.
Il y a plusieurs années,
t'avais... Les jeunes sont beaucoup plus renseignés aussi.
Ben,
tu sais,
oui.
Quand on était jeunes, nous, on se posait des questions, puis on pouvait peut-être aller rencontrer un médecin ou un psychologue ou un psychiatre, puis on se fiait sur le professionnel. Là, maintenant, ce que les jeunes font, c'est qu'ils vont sur Internet, essaient d'en savoir plus sur leurs problématiques, essaient de voir de quelle façon ils pourraient régler ça, emmagasinent déjà des outils, puis il arrive en face du psy ou il arrive en face du psychiatre, puis des fois, le psychiatre ou le psy pogne un deux minutes parce qu'il pose des questions qui sont pertinentes à son travail pour savoir.
Oui.
Mais la personne dit, si tu me poses cette question-là, c'est parce que tu as un préjugé envers moi.
Ouais,
t'imagines la difficulté?
Il y a beaucoup d'auto-diagnostic aussi là-dedans. Là. Tu sais, on parle des réseaux sociaux, mais c'est des jeunes qui vont vouloir.
Mais non, c'est au même principe que si tu as des mots physiques, ouais. Tu t'en vas sur Google,
ben, c'est ça.
Que ça s'appelle.
Tu entends à la radio quelqu'un qui a malheureusement le cancer du cerveau, il parle de ses symptômes, dans ton char, ben moi, là, des fois, je, ben ouais, mais moi aussi, j'ai mal en tête des fois. Moi aussi, je me sens fatigué.
Tu vois, j'ai demandé à Dr Campbell à quel point c'est facile de cerner la demande sérieuse de la part d'un adolescent, parce qu'à l'adolescence, pardon, on va se le dire, là, t'es perdu, là. En partant, tu sais pas vraiment t'es qui, là. Fait que quelqu'un qui se sent pas bien dans son corps, comment tu fais pour savoir si c'est pas une passe ou si c'est vraiment ce qu'il veut au final?
Je pense que la vaste majorité des demandes sont très sérieuses. Maintenant, ça se peut que quelqu'un qui est plus ou moins, qui a plus ou moins d'expérience en échappe un ou une. Mais en général, moi, ça fait une quarantaine d'années que je vois des personnes qui ont une dysphorie de genre. C'est jamais arrivé encore en 40 ans, puis j'en vois beaucoup, où une personne a changé d'idée. Des fois, il y a des personnes qui vont hésiter. Je prends des personnes plus âgées, par exemple, qui ont une conjointe ou un conjoint qui veut quitter si la personne fait sa transition. Là, ils vont attendre un peu. Parce que ça, c'est un autre genre de souffrance, hein, la peine d'amour. Mm. Donc, ils vont hésiter entre leur propre identité, leur dysphorie de genre, puis la peine d'amour. Mais tôt ou tard, ces gens-là reviennent, puis lorsque la relation est terminée, ils disent « bon, enfin ». Je veux faire une transition de genre. Mais pour les jeunes, on prend vraiment notre temps. On n'est pas pressé. On veut réduire la souffrance, mais on prend le temps de bien évaluer la situation. Et souvent, on va demander à un collègue aussi pour une deuxième opinion.
Ça, c'est toujours très recommandé. Une deuxième opinion, une troisième opinion.
Juste oui, pour puis... mettre... Il faut le faire depuis le début, je pense, mais les bons mots sur le questionnement que vous aviez, à savoir est-ce un trouble mental ou pas.
Mais c'est dans le DSM, fait que ça en est un.
Mais c'est parce que c'est une pathologie médicale, exact. Mais avec des symptômes psychiatriques pour certains.
Voilà.
Mais quand on disait de la détresse psychologique, bien, c'est ben oui, apparenté à des troubles du développement sexuel et non pas principalement un trouble mental. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'on peut dire, ben là, si c'est dans le DSM...
C'est que tu peux pas mettre ça, en gros, dans le même panier qu'un TPL, un trouble de personnalité limite, mettons. Parce que dans le reportage qu'on a présenté en caisse jeudi dernier, c'est une question qui est posée, celle-là. Il y a des cliniques qui, sans trop s'informer, disent carrément à certains parents, ben oui, non, ça, c'est un trouble de la personnalité limite. Il veut changer de sexe, c'est vraiment juste parce qu'il y a un problème mental. Fait que c'est juste de pas mettre ces œufs-là dans le même panier parce que la limite, elle est vraiment, vraiment mince. Techniquement, sur papier, t'as pas tort. Rien. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne.
Ouais. Ben, l'idéal, c'est de consulter les professionnels.
Mais oui.
De savoir, tu sais, eux autres, ils ont étudié là-dedans, ils savent c'est quoi, ils en rencontrent régulièrement. Et tu sais, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que, puis je me fie sur les témoignages que j'ai entendus dans les derniers jours, c'est de voir que les psychologues ont de la misère à faire leur travail.
Oui.
Parce que la personne se présente en disant « Oui, 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 moi, je suis transsexuel, je vais être une femme. » Oui, mais le psychologue, il faut qu'il fasse un travail aussi avec toi. Le psychiatre, il faut qu'il fasse un travail aussi avec toi.
Ces jeunes-là savent déjà exactement ce qu'ils veulent, sont prêts à répondre aux questionnaires, puis ah ouais, donne-moi les pilules. Là.
Ça me fait un petit peu capoter. Puis de savoir qu'il y a énormément de gens aux prises avec des problèmes en santé mentale graves qui se disent, une fois que je vais avoir fait ma transition, je vais être guéri. Mmh. Et le médecin de lui dire, non, c'est parce que ça n'a pas rapport avec ça.
C'est ça.
Et là, les gens commencent à faire des plaintes envers les médecins.
Bien, écoute ça, tu vas trouver ça super intéressant. L'extrait est un peu plus long, mais j'y tenais parce que ça explique justement un peu le volet santé mentale puis à quel point un parent doit réagir rapidement aussi à la demande de son jeune.
Chaque cas est un cas d'espèce, hein? Chaque enfant est différent. Il peut avoir de la comorbidité qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il peut avoir d'autres choses qui cohabitent avec la dysphorie de genre, comme la dépression, des obsessions compulsions, des troubles de personnalité, même de la psychose. Souvent de la dépression, quand les gens viennent nous voir, sont dans un état dépressif. Alors, il s'agit là, de vraiment peser le pour et le contre, faire le bilan avec la personne, s'assurer que la personne est en état de bien répondre aux questions, qu'il n'y a pas de la comorbidité, comme j'ai dit tantôt, de développer aussi une alliance avec les parents, si la personne qui a une tuerie, si le jeune qui a une tuerie de genre le veut. Mais moi, je l'encourage de travailler en équipe avec le parent, le médecin, d'autres spécialistes, parfois un pédiatre. On prend vraiment notre temps et c'est très rare qu'on passe à côté.
Il y a quelque chose que vous avez dit qui a piqué un peu mon intérêt parce qu'on en parle dans ce documentaire-là. On associe beaucoup, malheureusement, j'ai l'impression, la dysphorie de genre à la maladie mentale. On parle beaucoup du fait que souvent les jeunes qui ont une dysphorie de genre ont aussi justement un trouble de personnalité limite ou dépression, comme vous dites. Est-ce que c'est une association qu'on doit faire absolument?
Non, il y a des personnes qui ont une dysphorie de genre, puis il n'y a pas de comorbidité. Et il y en a d'autres qui en ont. Ceux qui en ont, de la comorbidité, qui ont d'autres maladies, il faut bien évaluer les autres maladies et regarder l'impact que ça a sur la dysphorie de genre. Mais la dysphorie de genre est une condition. Hein. C'est comme être enceinte, c'est pas une maladie. On a peut-être besoin d'un médecin ou d'un spécialiste. Donc, la dysphorie de genre, c'est une condition. Puis cette condition-là, souvent, existe depuis très longtemps, avant que la personne arrive dans mon bureau. Maintenant, les cas qui nous inquiètent le plus, c'est les cas qui sont suicidaires. Moi, j'ai déjà un jeune qui était tellement intense, sa problématique, qu'il ne voulait pas attendre. Il ne voulait pas prendre le temps de faire une évaluation, puis il s'est coupé le pénis. Donc, on ne veut pas que ces choses-là arrivent, évidemment. Alors là, il y avait peut-être aussi d'autres difficultés chez ce jeune-là, mais c'est certainement des personnes qui souffrent beaucoup. Puis nous, notre rôle, c'est de trouver le moyen le plus efficace et le plus éthique pour réduire cette souffrance-là.
Quand même extrême, là.
C'est très extrême.
Imaginez
là, vous comprendrez.
Bien, c'est tellement bien dit, là.
Là, c'est très généralisé dans les deux extrêmes. T'sais, dans le reportage dont je vous parle, TransExpress, on est carrément à l'extrême de, au Québec, le processus d'accompagnement n'est pas le bon. C'est trop rapide. On ne prend pas le temps de vraiment s'assurer que le jeune veut ça pour vrai dans sa vie. Puis c'est des jeunes qui ont transitionné autour de 14 ans et qui, vers 16-17, ont voulu détransitionner parce que finalement, ce n'est pas ce qu'ils voulaient pantoute. Puis qui clament que c'est pas mal plus compliqué de transitionner que transitionner au Québec.
T'sais? Ça doit être plus compliqué pour les gars que pour les filles.
Mais pas du tout. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pourquoi je m'explique. Dans le reportage, tu vois une jeune fille qu'on appelle Clara pour les besoins de la cause. Okay?
Ouais.
Clara était une jeune fille de 14 ans qui a voulu devenir un homme. S'est mise à prendre des coupeurs d'hormones, puis à prendre de la testostérone.
Avec la mâchoire élargie, les épaules élargies.
Tout élargie, plus de règles, etc. etc. Donc, difficile aussi au niveau de la fertilité, t'oublies pas mal ça. Elle s'est fait aussi carrément enlever les seins.
Ablation.
Fait que là, aux alentours de 16 ans, il faut d'un qu'elle se redécouvre comme femme en pleine adolescence, comprend avec un drôle de cercle à ce moment-là parce qu'il avait changé avec la transition. Puis là, tu détransitionnes. Elle n'aurait plus jamais l'air de ce qu'elle avait l'air.
Elle a regretté son choix et souhaitait redevenir une femme?
Oui, elle est redevenue une femme, mais là, au moment où on se parle, c'est avec les perruques parce qu'elle est en train de refaire sa transition inverse, mais tu sais, les seins, il va falloir qu'elle s'en fasse poser. C'est pas couvert à ce moment-là parce que c'est esthétique.
Oui, mais un gars qui se fait enlever le pénis, tu peux pas le remettre, là?
Ah, non plus. Mais là, si on parle des organes sexuels, dans les deux cas, il y a rien de facile là. Dans les deux cas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là, entre toi et moi. Là.
Ah, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Non.
J'ai pas le choix de te dire que...
Je sais pas. T'sais, tu te fais couper ça, puis après ça, tu dis au médecin, finalement, peux-tu m'en rajouter un petit bout?
Ouais, non, je pense pas que ça marche de même, parce que c'est pas juste rajouter un petit bout. Ouais. Là, c'est
moi,
pas un bout de peau de bras.
Moi, j'ai vu la façon dont ils font ça. Il y a un reportage, je sais pas s'il est encore disponible sur YouTube, mais il est 14 minutes, c'est quelqu'un qui explique sa démarche et tout ça. C'est une femme qui devient un homme. Puis ils prennent la peau des avant-bras, tu sais, le petit lousse ici, là.
Ouais.
Pascal, je pense qu'elle se sent mal. Ils prennent la peau des avant-bras, puis ils installent un système de pompe à l'intérieur, la peau s'en va autour, puis pour le clitoris s'en va à la position du gland.
Du gland, totalement. Mais le processus inverse est exactement le même.
Oui, je sais. Fait mais que... une fois que tu as fait le processus inverse, essaye d'en mettre ça
non,
au bout.
Dans les deux cas, là, je veux dire, tu es pogné avec ton engin. Là, ça, c'est un pensée-y bien. Là.
Ton œuvre d'art n'est plus ce qu'elle était.
Puis en passant, ça, tu peux pas le faire quand tu es mineur. Là, aucune chance. Non. La chirurgie, là, c'est un peu plus
poussé. C'est une maudite bonne affaire. Là.
Ah, ça, oui.
Charcuter nos enfants, on va relaxer un peu. 18 ans, moi, je trouve que c'est une belle âge. Même 21, je mettrais ça à 21. Pour pouvoir transitionner complètement.
J'aurais tendance à être d'accord avec toi, puis en même temps, je trouve qu'on est imposteur dans ce sujet-là parce que je suis bien dans mon corps de femme. Fait que je peux pas parler pour quelqu'un qui est vraiment pas bien dans sa peau, qui a juste hâte que ce soit terminé.
Bien, comme
le
jeune homme qui s'est infligé des souffrances physiques.
De la mutilation, carrément.
Mutilation. Cet homme-là, ce jeune homme-là, si on lui avait demandé, admettons qu'il avait 13 ans, je sais pas il y a quel âge, mais d'attendre jusqu'à temps qu'il soit majeur.
C'est complexe.
Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus parce que je pense pas que quelqu'un qui va comme ça à l'extrême est sain d'esprit.
Je comprends ton point.
T'sais, d'après moi, il devrait guérir quelque chose.
Le dira.
D'après moi, il devrait guérir quelque chose. Puis après ça.
Mais non, mais c'est un mal-être profond, ça. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Je vous ai parlé d'à quel point c'était facile d'avoir une lettre de recommandation pour commencer des injections, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai posé la question à Michel.
C'est pas si facile que ça, parce qu'on a des critères à rencontrer. Il y a des critères qui sont établis par une organisation qui s'appelle le CPAT ou le WPAT. C'est un organisme mondial où c'est des professionnels de pas mal tous les pays au monde, industrialisés en tout cas, qui ont fixé des critères pour que les personnes qui ont une souffrance, une dysphorie, puissent avoir des hormones pour réduire la dysphorie. Donc, il faut répondre aux critères. Il y a toute une série de critères pour une évaluation qui peut prendre quelques heures.
Tu sais, il y a ça que lui me raconte, mais je vais vous raconter une histoire personnelle. Depuis hier, j'essaie de rejoindre un ou une psychologue qui travaille justement avec la dysphorie de genre parce que je voulais que ce soit très précis. Puis je suis tombée sur la boîte vocale d'une psychologue de la région qui ne prend plus de clients en général parce qu'il y a trop de monde, elle n'a pas assez de temps là, dans son horaire tout simplement. Et elle mentionne sur sa boîte vocale, j'ai plus de place pour des consultations, mais si tu n'es pas bien dans ton corps puis tu veux une lettre de recommandation, envoie-moi simplement un courriel. Moi, ça me fait peur. Moi, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis comme parent, je serais super inquiète parce que si mon jeune veut ça, puis qu'il fait le processus, qu'il y a des rencontres avec un psychologue, puis qu'au bout de 2-3 rencontres, la lettre est faite, puis c'est vraiment ça qu'il veut, bien, regarde, à un certain point, OK, je ne serai pas la barrière du malheur de mon jeune.
Puis en même temps, tu sais, je ne suis pas un spécialiste de la loi, là, mais je pense qu'elle enfreint son code de déontologie, là. Elle doit rencontrer le patient pour l'évaluer, pour pouvoir le recommander par la suite.
Elle parle de courtes... je sais qu'il y a des courtes rencontres par webcam qui peuvent se faire. Bon, là, à quel point toutes les questions sont posées dans cette courte
mais
rencontre?
Au moins, elle rencontre.
Il y a ça, mais là, après une rencontre de 15 minutes, es-tu safe que ton jeune, toi, c'est vraiment ce qu'il veut dans sa vie puis qu'un professionnel vient de faire une lettre de recommandation? Je sais pas toi, moi, ça me stresse.
Non, il n'y a rien qui me stresse. Il n'y a rien qui me stresse là-dedans. Ce que je veux savoir, c'est le pourquoi du comment c'est traité. Il y a des gens qui disent, hey, on peut pas croire qu'on parle encore de ce sujet-là. Il y a 0,5% de la population. Mais moi, je cherche à comprendre. T'sais, la raison pour laquelle je suis dans les médias, c'est que je cherche à comprendre certaines choses. Puis j'aime apprendre des choses. Puis j'aime que les auditeurs apprennent en même temps.
Oui, puis là, je veux juste être clair. Le but, c'est pas de faire le procès des transgenres. Genre, c'est
pas
ça le sujet ce midi. Le sujet,
c'est pas de faire la promotion non plus.
Non, mais c'est nos façons de faire. C'est juste, est-ce que notre processus est le bon? Puis j'ai demandé en terminant, puis on va finir avec ça, est-ce qu'il manque quelque chose, selon lui, dans notre façon de procéder au Québec?
Non, je pense pas. Je pense qu'on veut s'assurer au Québec que ces personnes-là se fassent aider par des professionnels compétents. Et on veut s'assurer, on veut être sûr qu'on favorise le mieux-être, le bien-être de ces personnes-là. Donc, le comité de sages peut consulter plusieurs personnes. Donc, ces personnes-là vont donner leur avis. Et je vous dis qu'au Québec, on est vraiment... Il y a des professionnels dans ce secteur-là qui sont vraiment compétents. Pour être dans le secteur depuis 40 ans, là, je trouve que... On est choyé d'avoir beaucoup de professionnels compétents dans ce secteur-là.
C'est un dossier complet, Pinchot, merci.
Ben écoute, ça fait super plaisir. Puis aux auditeurs qui disent que c'est un très faible pourcentage de la population, je vous répondrai que c'est pas parce que c'est 2-3% qu'il faut carrément les ignorer, les mettre de côté.
Exact. Mais faut pas que tu prennes ça comme une insulte. Là. Quand quelqu'un dit ça, ah, mais là, il y a juste 0,5% de la population.
Non, mais pour moi, il y a un manque d'ouverture d'esprit à un certain point.
Un manque de bienveillance, assurément, parce que quand c'est ton enfant, qui fait partie du 2 à 3%, tu paniques un peu plus. Il manque de l'empathie, de la
bienveillance. Il y en a plusieurs qui sont dans leur voiture et ils disent mais pourquoi ils parlent encore des transgenres? Bien, c'est parce qu'on cherchait à comprendre le parcours du transgenre pour se rendre justement au changement de sexe. Tu as eu la chance de rencontrer un psychologue qui nous a bien expliqué les choses. Merci en passant de se prêter au jeu. C'est de l'éducation que ces gens-là font. Puis c'est grâce à toi si on peut le passer sur nos ondes. Mais moi, ce sujet-là, est-ce que je lis régulièrement là-dessus? La réponse, c'est non. Là. Mais de savoir qu'il y a des gens qui passent par différentes étapes, c'est quoi les étapes? C'est important de le faire, sinon, comment tu peux faire pour en parler par la suite?
Bien, c'est un peu ça, c'est intéressant, puis c'est surtout...
Comment tu peux faire pour baser ton opinion sur quelque chose que tu ne sais pas?
Ah, ça, là-dessus, écoute, puis complètement d'accord avec toi.
Puis il y a plein de gens qui font ça. Ah non, mais là, lui, c'est un ci, c'est un ça,
parler
sans
connaissance de cause.
Ben oui.
Ouais, attends une minute, là.
Ben oui, exact.
Non, on est du même avis, puis pour moi, ce qui est important, vous présentez ça ce midi, c'est pas « t'es-tu d'accord au point que les...
ben »
je m'en fiche. Honnêtement, mon avis, je ne veux même pas la mettre sur la place publique, puis je ne veux pas la vôtre non plus à ce niveau-là. C'est plus de dire un adolescent doit passer par un processus. Tu es jeune à 14 ans pour entamer ce processus-là. Fait comment ça fonctionne. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Puis si vous avez des questions, bien 971-1021.
Mon chum Christian Page m'avait déjà dit une phrase. Moi, j'étais de l'école que tous les gens ont le droit à leur opinion, toutes les opinions se valent. Okay?
Oui,
Christian m'avait dit en ondes. Il m'avait écrasé. Il m'avait dit en ondes, tu sais, Yann, c'est pas vrai que toutes les opinions se valent. Si tu as besoin d'une recommandation pour la maladie que tu as au cerveau, ben l'opinion du garagiste, elle vaut pas grand-chose. Tandis que celui qui est chirurgien, qui fait ça depuis 20 ans, opérer des cerveaux, son opinion à lui compte.
Ouais.
Le garagiste peut bien dire ce qu'il en pense, mais son opinion ne compte
ça
pas,
pèse pas dans
pour
la
ton opération au cerveau. Puis il a tellement raison. Fait que tu es aussi bien d'être avisé quand tu parles d'un sujet que juste dire « Moi, mon nom, c'est Gérard, puis voici ce que je pense de tel sujet, alors que tu n'as aucune idée c'est quoi, tu sais. »
C'est ça. Informe-toi, puis on s'en reparle.
Exactement.
Mais j'ai trouvé ça pertinent et très intéressant.
Yes! Merci beaucoup, Mme Pinchot. On t'écoute dans le retour.
Yeah!
Denis, où, là?
Il est bien, là. Il est en vacances pour une semaine. Fait qu'on tient fort.
Il est-tu dans des glissades?
Il a-tu ouvert sa piscine?
Non, je sais qu'il est dans des étapes de déménagement cette semaine.
Ah oui? Eh bien...
Ça, mais j'imagine pas Denis, tu sais, pacter ses affaires.
Ouais.
Je l'imagine regarder ça faire bon.
Je suis pas sûr que c'est ses affaires qui packent, moi.
Dans le retour, à 14h.
Ah!
Weather Beverly Hills sur les ondes de boulevard.